Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, Dieu apparaît une seconde fois à Abraham pour encourager son espérance. Mais nous voyons également qu'il crée avec lui une intimité, c'est-à-dire une amitié. Or vous savez que la charité est une amitié. Et nous voyons avec quelle foi Abraham répond à Dieu et lui fait confiance. Dieu donc apparaît pour la seconde fois à Abraham. Ce n'est pas encore la grande apparition avec la promesse, le testament. C'est une confirmation de la première apparition. Vous vous rappelez qu'il lui avait promis tout d'abord de lui donner cette terre, deuxièmement, de le faire père d'un peuple grand, et troisièmement, de susciter beaucoup d'hommes pour le bénir. Le bénir, c'est-à-dire l'admirer, le louer, mais également le suivre. Comme je vous le disais, nous sommes vraiment là à la naissance concrète de l'Église. Certes, l'Église est née dès la création, ou plutôt dès la promesse de Dieu juste après le péché originel, promesse du Sauveur. Certes, nous avons vu que des hommes éminents et finalement relativement nombreux ont répondu à l'appel de Dieu. Mais là, nous avons la fondation d'un peuple qui ne s'éteindra jamais. Je vous ai dit la dernière fois que l'état normal de l'Église était d'être en pérégrination, c'est-à-dire en marche, au milieu des païens, qu'elle n'avait ici aucune demeure stable, c'est l'enseignement de saint Paul. On le lit dans les épîtres, mais il est important d'en prendre conscience. Taré, le père d'Abraham, lui, bien qu'il soit sorti d'Ur en Chaldée, s'arrête à Haran et ne se rend pas avec ses enfants sur la terre promise. Il est la figure de tous ces hommes qui, après avoir être sorti généreusement du péché, du monde païen, avoir généreusement répondu à leurs promesses du baptême, s'arrêtent, s'établissent, se font une demeure stable. Aujourd'hui, mes bien chers frères, nous en avons de nombreux tarés. Ce sont tous ceux qui voient les problèmes de l'Église moderne, c'est-à-dire les problèmes du monde qui attaque l'Église, et qui sont tellement attachés à leur œuvre, à leur congrégation, à leur paroisse, et pour vous, mes bien chers frères laïcs, qui sont attachés à leurs amis, que, tout en voyant qu'il faudrait réagir, ne réagissent pas, et se font un petit domaine qu'ils croient sécurisé, mais qui ne répond pas à l'appel de Dieu, et qui par conséquent n'a pas les promesses de Dieu, n'a pas les garanties divines, ne bénéficiera pas du testament. Le testament qui va bientôt venir sera pour Abraham et sa descendance, ce ne sera pas pour Abraham et ceux qui sont restés en arrière. Quant à la descendance, ce sera évidemment la descendance spirituelle et non pas la descendance charnelle. Ou plutôt si, ce sera aussi pour la descendance charnelle, mais elle la refusera. Dieu n'exclut personne, absolument personne, mais beaucoup, hélas, refuse et par conséquent ne profite pas de cette alliance et de ce testament. Pourquoi Dieu encourage-t-il Abraham par cette seconde apparition? Parce que il lui a promis de faire de lui le peuple d'une grande nation, or Abraham n'a toujours pas d'enfant. Cependant, aucune plainte, aucune inquiétude ne sort de sa bouche. Au contraire, nous allons voir qu'il édifie un autel pour le Seigneur, puis un deuxième autel d'ailleurs. donc il faut attendre l'heure de Dieu. Mais bien, chers frères, c'est notre situation à nous aussi. Il faut attendre l'heure de Dieu. Quand Dieu mettra-t-il à bas ses ennemis? Quand vengera-t-il l'honneur de sa mère, à laquelle on refuse les titres glorieux de co-rédemptrice et de médiatrice de toute grâce, c'est-à-dire de mère finalement? Quand bénira-t-il nos actions, notre fidélité? En réalité, il les bénit déjà, mais nous n'en voyons pas le fruit immédiatement. Ne nous posons pas ces questions, il ne faut pas se poser ces questions. Notre Seigneur dit dans l'Évangile que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, c'est à propos de la fin du monde, mais c'est vrai pour tout le reste. Il nous dit « les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant notre Père du ciel les nourrit ». Pourquoi vous inquiétez, homme de peu de foi? Donc Abraham attend sagement. Et vous verrez, enfin, nous verrons ensemble dans la suite, que ces épreuves à ce propos ne sont pas achevées, que Dieu mettra sa foi encore à l'épreuve. Et c'est grâce à cette épreuve qu'Abraham sera de plus en plus grand aux yeux de Dieu et à nos yeux. Lorsque le Christ arrive au ciel, le jour de l'ascension, les anges l'acclament parce qu'il a été victorieux. Nous le savons par le psaume 23, qui nous donne le dialogue des anges avec tous ceux qui accompagnent notre Seigneur entrant au ciel. Il est le Dieu fort, glorieux. Eh bien, toutes ces épreuves nous rendront plus glorieux. Et les anges diront à notre entrée au ciel, « Le voici, l'homme fort, l'homme fidèle, celui qui a suivi le Christ dans ses épreuves, qui est glorieux avec lui, qu'il entre au milieu de nous. » Dès qu'Abraham a reçu de Dieu le renouvellement de cette promesse, il édifie un autel au Seigneur. Et, chose curieuse, l'Écriture sainte ne nous dit pas qu'il offre un sacrifice sur cet autel. Et les pères de l'Église disent, bien sûr, Abraham savait déjà qu'on adore Dieu en esprit et en vérité. Les sacrifices extérieurs ne sont que des manifestations, des témoignages du sacrifice intérieur. Pour nous aider, Dieu a voulu ces manifestations extérieures. C'est pourquoi il a suscité la magnifique liturgie de l'Église. Il est allé bien plus loin en créant les sacrements. Mais rappelez-vous ce que dit saint Thomas d'Aquin à propos de la communion. Et c'est vrai pour tous les sacrements, et c'est vrai pour tous les actes de culte. Il y a la communion sacramentelle, sans communion spirituelle, elle est un sacrilège. Il y a la communion sacramentelle et spirituelle, et il y a la communion spirituelle sans le sacrement. Et vous savez, mes bien chers frères, que cette enveloppe sacramentelle, c'est un instrument, cette enveloppe sacramentelle est destinée à tomber pour laisser s'épanouir l'âme spirituelle de la prière et de l'union à Dieu. C'est vrai pour la plupart des hommes. La plupart des hommes, en vieillissant, ne peuvent plus participer au culte comme ils le faisaient dans leur jeunesse. Ne peuvent plus, pour beaucoup, pour certains au moins, se rendre à l'église, surtout quand ils habitent à la campagne relativement loin. Et l'enveloppe sacramentelle qui diminue, qui leur est moins présente, qui leur est moins offerte, permet l'épanouissement, s'ils le veulent bien, à eux de le vouloir. Mais quand on approche de la mort, on pense nécessairement aux choses spirituelles. Mon grand-père me disait, « Tu sais, Dieu a bien fait les choses. Quand on arrive à un grand âge, on n'a plus envie de rester, on a envie de partir. » Donc chez les vieillards, l'enveloppe extérieure, corporelle, diminue. Ma chère mère, qui aimait tant participer à la messe, et qui était quasi grabataire, sur la fin de sa vie, connaissait sa messe par cœur et la disait tous les jours. Abraham a compris cela. Abraham a compris que si, dans certaines situations, il faut être attentif à l'enveloppe, par exemple pour témoigner devant d'autres ou pour aider notre faiblesse, dans d'autres occasions, il faut au contraire aller directement à l'âme, surtout quand on vient de parler avec Dieu, qu'on est face à Dieu seul, qu'on est dans son intimité, et Abraham estime que c'est déjà un témoignage extérieur suffisant que de construire un autel, et qu'il n'est pas nécessaire de rajouter un sacrifice d'animal pour témoigner de son sacrifice intérieur. Et ce sacrifice intérieur a tant de valeur qu'Abraham, aussitôt après avoir édifié cet autel, part de nouveau en pérégrination. Ce lieu est saint parce qu'il a reçu la vision de Dieu, la promesse de Dieu. De même que Moïse est prié de se déchausser avant d'approcher du buisson ardent, de même Abraham, spontanément, sent qu'il ne doit plus fouler ce lieu saint. Mais comme il faut partout donner à Dieu un sacrifice intérieur, là où il se rend, il édifie un nouvel autel, un autel sur lequel, encore une fois, il offre son sacrifice intérieur, puisque l'Écriture sainte ne mentionne aucune victime d'animaux. Et puis, encore une fois, il déménage, soit spontanément, pour répondre à la promesse de Dieu, soit, très probablement, nous disent certains pères de l'Église, pour préserver la foi de sa famille et de tous ceux qui le suivent. Mes bien chers frères, c'est le grand critère que nous donnait Mgr Lefebvre pour ne pas fréquenter les modernes et tous ceux qui se sont alliés aux modernistes. Lorsqu'il nous disait de ne pas fréquenter la messe moderne, nous étions assez surpris parce que il ne nous donnait pas comme argument que cette messe est mauvaise, quoiqu'il l'ait dit très souvent, très très souvent que cette messe était mauvaise. Mais ce n'était pas là le principal argument. Le principal argument, c'était de ne pas fréquenter les modernistes, parce que cela met la foi en danger. Et c'est vrai surtout pour les enfants. Et quand, hélas, après les sacres de 1988, certains de nos amis ont préféré quitter Mgr Lefebvre pour faire un accord avec la Rome moderne, Mgr Lefebvre a tenu envers eux la même position, ne pas les fréquenter à cause du danger de se laisser entraîner avec eux, voire par eux, se laisser entraîner à un accord avec les modernes, et donc un accord avec le modernisme, donc c'était un danger pour la foi. Combien de chrétiens aujourd'hui, même ceux qui adhèrent fortement à Jésus-Christ et qui ne voudraient pas l'abandonner, pensent que n'importe qui peut se sauver dans n'importe quelle religion, comme ils disent, à condition d'être loyal. Combien de traditionalistes aujourd'hui, qui cherchent à vivre vraiment en bon chrétien, acceptent comme des choses qu'ils ne voudraient certainement pas pour eux et leur famille, mais qu'ils acceptent chez les autres en disant que c'est à chacun de voir. Abraham est conscient de cela. Et s'il pérégrine, et s'il s'éloigne des autels qu'il a construits, s'il vit principalement du sacrifice intérieur, puisque l'Écriture sainte ne nous dit pas qu'il ait construit d'autres autels ensuite, jusqu'à l'autel du sacrifice de son fils Isaac, mais ça c'est une autre histoire, c'est qu'Abraham est conscient des dangers. Et je vous disais, je crois que cela est encore plus vrai pour les enfants que pour les adultes. Comment voulez-vous que des enfants généreux qui servent la messe, qui se confessent, qui communient, qui écoutent les sermons, à qui l'on dit d'être sage et de ne pas troubler la cérémonie, comment voulez-vous que, en grandissant, ils ne suivent pas ces prêtres, et s'ils ont la vocation, comment voulez-vous qu'ils ne les suivent pas, y compris dans leurs erreurs? Le prêtre qui vient d'être ordonné en Irlande par Mgr Ballini, avec j'ai eu l'honneur de parler deux fois avec son père, j'ai appris qu'ils ont la messe et les sacrements tous les 3 ou 4 mois. Et quand je demandais au père comment les enfants faisaient avec peu de confession, il me dit « Monsieur l'abbé, c'est simple, si l'on peut se confesser rarement, eh bien il faut apprendre à ne pas pécher, et pour ne pas pécher, il faut éloigner les tentations. » Et cet homme n'éloignait pas les tentations physiquement comme Abraham, encore que il vivait à la campagne un peu loin de tout, et c'est ce que Mgr Lefebvre recommandait, mais il éloignait les tentations en vivant loin de l'esprit moderne, pas d'écran, pas de téléphone portable, pas de fréquentation des mauvaises écoles ou des mauvais amis ou de mauvaises familles, disons de familles dangereuses. Le résultat, 2 vocations. Méfiez-vous des tradilandes, mes bien chers frères. On croit être en sécurité parce qu'on est entouré de nombreux traditionnalistes. C'est le cas lorsqu'il y a 2 écoles, une de filles, une de garçons, à proximité l'une de l'autre, les familles s'agglutinent. Et puis on s'aperçoit que très vite, l'esprit mondain pénètre. Certes, on a de bonnes églises, de belles églises, mais l'esprit mondain pénètre. Non, le modèle c'est Abraham, ce n'est pas le Tradiland. Et on découvre que cette vie d'Abraham, coupée du monde, est une vie normale. Monsieur Schmitt, donc le père de Monsieur Albert Schmitt dont je vous parlais, m'a dit que sa famille ressemblait à un petit monastère. Et Don de Montléon dit que ceux qui accompagnaient Abraham, cela ressemblait à un monastère. Et Mgr Lefebvre disait qu'il ne devrait pas y avoir de différence entre la vie d'un chrétien et la vie d'un religieux. Un prêtre qui était prisonnier en Russie soviétique, un prêtre religieux, désolé dans son cul de batte fausse d'être privé de la vie religieuse à laquelle il était habitué, a établi Notre Seigneur comme père abbé, la Sainte Vierge comme sous-prieur, Saint Joseph comme père économe, et chaque soir, il leur rendait compte de sa journée en prison, comme il le faisait dans la vie religieuse auprès de ses supérieurs. Je vous laisse sur ces magnifiques exemples, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.